This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-uppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute. En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci pour votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Maillard, cofondateur et président de Plume Énergie. Bonjour Vincent, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bonjour, moi aussi.
Et en plus, j'ai vu quand même des actualités assez sympas, des engagements pris pendant le confinement qui m'ont marqué sur Plume, sur le fait que vous ayez, baissé de 50% les factures des particuliers qui avaient souscrit à votre offre parce que justement, comme ils étaient chez eux, ils consommaient davantage et avec la crise économique, vous avez pris la position de baisser les factures. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Non, tout à fait. En fait, on a eu beaucoup de réflexions sur comment faire. On a constaté que les gens, ils étaient confinés à partir de mi-mars et naturellement, ils ont consommé plus que ce qu'ils auraient consommé normalement. Alors certes, on sortait de l'hiver, donc les gens consommaient moins globalement, mais ils consommaient plus que ce qu'on aurait attendu. Parce que ils étaient chez eux, ils ouvraient, fermaient les frigos, ils allumaient leurs lumières, laissaient leurs ordinateurs allumés, et il y avait plus de présence et plus de consommation.
Tu as dû voir par contre d'un point de vue professionnel, une énorme diminution par contre.
Nos clients collectivités, hein, notamment parce qu'on est fournisseur de collectivités territoriales, la ville de Paris, des communes des Bouches-du-Rhône, de l'Indre-et-Loire, etc. Tout ce qui est collectivité, il y a une baisse très très forte de certaines consommations, hein, assez spectaculaire. Bien sûr, les écoles ont fermé, les stades ont fermé. Il y a beaucoup de bâtiments publics qui ont été fermés et en conséquence, la consommation a baissé drastiquement. Hein. Dans certains cas, on a vu des baisses de 50%, voire sur certains sites, et c'est la fermeture complète, c'est 90-95% de réduction de baisse de consommation. Ça, c'est sur le marché des collectivités territoriales. Qui sont une partie de nos clients, et sur les clients dits résidentiels, donc les ménages en fait, eux ils ont plutôt consommé entre 10 et 15% de plus, et ce qu'on a voulu faire effectivement c'est les accompagner en se disant on va pas baisser le prix de l'énergie parce que c'est jamais ce qu'on veut faire, parce que l'énergie est un bien précieux, on veut pas en baisser le prix, mais en revanche ce qu'on pouvait faire c'est baisser le prix de l'abonnement, et on a décidé de baisser le prix de l'abonnement pendant toute la période de confinement de 50%, de manière complètement automatique, hein, c'était pas un truc où on fait la com et on demande à clients de souscrire et de cocher une case quelque part perdue sur un site internet, non, on l'a fait pour tout le monde, de manière...
Ah oui, et d'ailleurs je tiens même à t'interrompre et à préciser que je ne l'ai pas vu passer en pub, je l'ai juste vu en préparant cet entretien et en tombant sur un de tes interviews. Donc voilà, c'est fait de manière très discrète et donc forcément c'est très louable. Je tenais aussi à le préciser.
On aime bien que ce soit connu aussi parce que il faut bien que les clients reconnaissent les fournisseurs qui portent des valeurs qu'ils partagent.
Bien sûr, le partager, mais pas en faire, une propagande à outrance pour un modèle. Non, j'ai trouvé que c'était très, très fin que tu l'avais fait de façon très discrète et très, alignée avec la position de Plume. Et donc, Plume, pour auto-contextualiser, c'est l'énergie 100% verte qui récompense en euros vos économies d'énergie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'offre de Plume?
Nous, au départ, on a ce positionnement très original parmi tous les fournisseurs en France et même en Europe, qui est que on était un fournisseur dédié aux économies d'énergie. Pour tout vous dire, en fait, au départ, le projet était plutôt de savoir comment on pouvait accompagner les clients pour réduire leur consommation. Et en fait, on a fait le constat un peu paradoxal que pour les aider à réduire leur consommation, il valait mieux être fournisseur. Parce que c'est un peu la question du pied dans la porte, c'est-à-dire que un ménage comme vous et moi, il va se dire bon, à quelqu'un qui me propose d'économiser l'énergie, c'est quoi son service, etc. Alors son fournisseur, il en a besoin. Donc naturellement, il va venir faire un fournisseur. Et on s'est dit voilà, nous on va devenir fournisseur pour accompagner les clients et pour qu'ils réduisent leur consommation. Et le cœur de notre première offre est profondément original en ce que on récompensait l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on estimait à partir d'algorithmes et on continue d'estimer à partir d'algorithmes la consommation que le client aurait normalement. Et s'il la réduit, eh bien, évidemment, il réduit sa consommation, il consomme moins, il a une facture plus faible. Ça, c'est le premier effet, c'est mécanique. C'est vrai chez tout fournisseur. Mais nous, notre originalité, c'est que on abonde, on double le bénéfice de cette économie en mettant un montant équivalent dans ce qu'on appelait à l'époque une cagnotte, ce qu'on appelle aujourd'hui un bonus éco-conso, et qui rétribue monétairement et incite monétairement les clients à réduire leur consommation.
Mais je trouve ça génial que la dynamique, ce soit d'abord de base, comment est-ce qu'on peut réduire la consommation d'énergie? Ça veut dire que tu as trouvé finalement une solution en montant un business purement basé sur une volonté de réduire son empreinte. Je trouve ça vraiment très louable. Est-ce que tu vois du coup, d'ailleurs, les effets bénéfiques?
Ben, on voit les effets bénéfiques de la chose, c'est-à-dire que nous, nos clients, maintenant qu'on commence à avoir le recul, parce qu'on a lancé notre offre en 2016-2017, hein, donc on commence à avoir du recul et de l'historique de consommation des clients, réduisent leur consommation d'environ 10% par rapport à ce qu'ils consommaient auparavant. Et ça, sans peine, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est juste le fait qu'on leur donne des conseils, ils sont plus avertis, disons, qu'ils peuvent réduire leur consommation, ils ont cette incitation monétaire, et nous, on n'est pas... on n'a jamais voulu, d'ailleurs, hein, pousser les clients à acheter des gadgets importés de Chine, qui sont la quincaillerie électronique un peu inutile et qu'on va jeter et qui va polluer la planète après. Nous, ce qu'on voulait vraiment travailler, c'est le côté où les clients savent qu'ils doivent, ils peuvent maîtriser avec des gestes simples. Je sais pas, couvrir la casserole, à baisser la température, à couper les radiateurs quand c'est inutile, à les appareils de veille, et évidemment à les couper. Tous ces gestes, tous ces petits gestes du quotidien, si on y fait attention, on peut réduire sa consommation. 10%, c'est considérable. C'est-à-dire qu'il faut voir ça à la mesure. Alors on peut faire mieux, hein, mais 10%, c'est considérable par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. 10% de la consommation des clients résidentiels, ça représente ce qu'on appelle 15 TWh, 15 milliards de kWh, c'est la production, c'est plus que la production attendue de l'EPR de Flamanville dont on nous parle si souvent. La transition énergétique, elle peut se faire et elle doit se faire de plus en plus aussi par une action du côté de la consommation. Et c'est ça qu'on a initié, c'est en ça qu'on est profondément original. Après, évidemment, on a fait l'énergie verte, mais on n'y a fait que dans un second temps. On l'a fait que dans un second temps parce que... c'était pas notre positionnement de départ. On voulait vraiment être original sur la partie consommation d'énergie. Et deux, on considérait au départ qu'il y avait pas, on n'avait pas les partenaires suffisamment sérieux pour faire du vrai vert, de la vraie énergie verte. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éco-blanchiment sur le marché, malheureusement.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un peu ce que c'est que l'éco-blanchiment?
L'éco-blanchiment, il consiste à, dans notre secteur, à dire à un client qu'il achète du vert, alors que le fournisseur s'est contenté d'acheter une espèce de garantie d'origine, donc un certificat papier, un peu partout en Europe. Il peut typiquement l'acheter au moins cher, et s'il l'achète au moins cher, il va l'acheter en Islande, il va l'acheter en Finlande. On voit bien que c'est des pays qui n'ont rien à voir avec la France. L'Islande n'est même pas interconnectée avec la France. Hein. Mais ils achètent des papiers, et ces papiers, ils font quoi? Ils attestent que quelque part, en Islande, quelqu'un a produit d'énergie verte. Ça apporte rien à la France. Ça enrichit souvent des vieux rentiers islandais qui ont hérité de leur barrage, de leur grand-mère et de leur arrière-grand-mère, et ça ne fait rien, ça ne contribue en rien à la transition énergétique. Donc nous, on voulait faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire de l'énergie verte locale, c'est-à-dire au moins française, évidemment, et aussi, c'est de plus en plus cela qu'on pousse, de l'énergie verte incrémental. Il ne s'agit pas d'enrichir des gens qui ont des centrales hydrauliques depuis 50 ans ou 60 ans. Ça, c'est très bien pour ceux qui ont leur barrage, ils gagnent de l'argent en plus, mais ça contribue en rien à la transition énergétique, c'est-à-dire que ça ne développe pas de nouveaux moyens de production. Et donc, c'est sur ces deux aspects, disons, ce qu'on appelle l'incrémentalité en termes de jargon, de métier et de localité, c'est-à-dire en premier lieu français, mais ça peut être encore plus local que ça, qu'on a travaillé. En fait. Et donc là, on a en quelque sorte rassemblé les deux jambes de notre projet, hein, c'est mieux consommer et mieux produire. Et il faut bien voir que c'est très lié, ces deux aspects-là. Et on voit bien post-crise coronavirus. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour rémunérer correctement les producteurs d'énergie renouvelable, on ne peut pas vendre à vil prix. On ne peut pas dire aux clients votre énergie va être moins 10%, voire dans certains cas moins 20% moins cher que le tarif réglementé de vente. C'est-à-dire que un coût qui est orienté vers du nucléaire hyper amorti depuis très longtemps, et dire on est 20% moins cher que ça ou 10% moins cher que ça, et en plus on rémunère justement des producteurs en France. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le faire. Donc ce qu'on peut faire en revanche, donc on trompe d'une certaine manière les clients en faisant ça, et c'est encore plus grave parce que quand on dit aux clients que l'énergie est pas chère, on leur envoie un très mauvais signal. C'est-à-dire qu'on leur envoie un signal qu'ils peuvent finalement consommer plus ou faire un peu moins attention à leur consommation et que comme le prix est plus faible, eh bien, ils s'y retrouveront. Et ça, en fait, tout le monde y perd. Parce que, évidemment, les producteurs y perdent parce qu'ils ne sont pas rémunérés justement. Donc, on enrichit in fine peut-être des rentières islandaises, pour reprendre mon exemple. Et le client y perd aussi parce que quand il consomme plus, par derrière, sa facture va augmenter. Et donc, son gain de facture est pas du tout à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer. Peut-être 2%. On lui annonce 10% de baisse de prix et sa facture baisse peut-être de 2% à cause de ces phénomènes-là. Et bien sûr, la planète y perd parce que si on consomme plus, bah, évidemment, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, nous, on a voulu complètement inverser ce modèle et dire, il faut rémunérer justement le producteur. Donc, on va pas vendre moins cher que le tarif réglementé de vente. On va juste vendre au même prix que le tarif réglementé de vente. Mais en revanche, on accompagne le client pour qu'il réduise sa consommation et même on le récompense pour cela. Et par derrière, il a de vraies économies parce que s'il baisse sa consommation de 10%, en plus, il a un bonus de notre part, bah, sa facture va baisser de 15%, voire 20%. Donc, il a un vrai gain sur sa facture. Et là, tout le monde y gagne. Le producteur français, bien sûr, parce qu'il est justement rémunéré. La planète, parce qu'on consomme moins d'énergie. Et le client, parce qu'il a une vraie réduction de facture.
C'est top. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout un accompagnement du client, une information, etc., sur la façon, sur sa consommation, sur comment devenir un consommateur et comment réduire cette empreinte. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations sur le blog ou est-ce que dans votre communication, dans la communication du groupe, on peut voir toutes ces informations? Ou finalement, est-ce qu'il peut simplement vous appeler un service client et avoir les informations?
Alors nous, on travaille un peu tous azimuts, mais le projet s'est beaucoup axé autour des conseils. Alors beaucoup de fournisseurs donnent des conseils, nous on a voulu les rendre plus ludiques, plus systématiques, à travers des mails, à travers ce qu'on met dans le blog, à travers la relation client qu'on a, hein, effectivement. Hein, quand un client nous appelle et qu'on trouve qu'il consomme plus, on va se poser la question de savoir quelle est l'origine de sa surconsommation, est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc., etc. Donc, en fait, c'est un travail de tous les instants, de tous les canaux de communication que l'on met en œuvre. Non. Bien sûr, d'autres projets demain pour aller encore plus loin, mais la base, c'est effectivement des conseils et des conseils personnalisés. On ne donne pas les mêmes conseils à quelqu'un qui a du chauffage, qui n'a pas du chauffage, qui a un appartement, qui est en maison, qui est dans le sud, qui est dans le nord. Tout ça est évidemment personnalisé en fonction des types de ménages qu'on a.
Le psy de la consommation d'énergie. Non, mais j'adore, c'est vraiment top parce que du coup, je pense que c'est de l'accompagnement et même peut-être pendant cette période de confinement qui a dû être un peu anxiogène, je pense que c'est quelque chose qui est très, très demandé par le consommateur aujourd'hui. Et quels sont les prochains challenges du coup pour Plume Énergie? Même si je pense que pour Plume, parce que Plume Énergie, c'est juste que le nom, c'est le nom logique, mais pour Plume, quels sont les prochains challenge. Tiens, d'ailleurs, en sortant le nom Plume Énergie, je me demande d'où te vient ce naming? Comment tu as eu l'idée? Est-ce que, puisque tu es cofondateur, donc vous avez forcément eu l'idée à plusieurs, mais d'où ça vient?
On a beaucoup beaucoup travaillé au tout début hein, sur le projet. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Plume? Bah, tout simplement parce que Plume, c'est léger, parce que Plume, c'est douillet, parce que Plume, c'est naturel. Donc, c'est le côté, on va alléger la facture. C'est douillet, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à votre confort. On n'est pas dans la pénalisation, on est dans l'accompagnement du client. Et c'est naturel parce que, bien sûr, la meilleure énergie verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et par derrière, on fait l'énergie verte. C'est trois qualités de la Plume, si je puis dire, qui ont fait qu'on a été séduit par ce moment-là, qui est très simple et qui nous ressemble.
Moi, je valide. Je le trouve très beau comme ouais, puisque l'image, en fait, même derrière la Plume est très jolie. Et donc, les prochains challenges pour Plume.
Bah, les prochains challenges, c'est de convaincre de plus en plus de clients, bien sûr. De proposer une offre sur le gaz, hein, parce que aujourd'hui, on est fournisseur de gaz pour la ville de Paris, pour les mairies d'arrondissement de la ville de Paris, mais on n'est pas encore fournisseur de gaz pour les particuliers, pour une raison simple, c'est que c'est pas forcément simple de trouver du vrai biométhane, du vrai biogaz en France. Donc là, on a travaillé sur cela. On va lancer une offre et on va aussi se développer auprès des clients professionnels qui de plus en plus sont intéressés par travailler avec nous sur la transition énergétique. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est de plus en plus de nous. On est quelque part des gens qui cherchons à développer les débouchés pour des producteurs d'énergie renouvelable qui veulent faire de nouvelles productions. En proposant à un client un compromis ou une offre attractive en ce que on leur dit, bah écoutez, vous allez acheter avec en valorisant la production locale, c'est-à-dire vous n'allez pas la vendre l'acheter à prix cassé. En même temps, on vous accompagne sur l'économie d'énergie et pas derrière. Donc, on va acquérir des clients qui vont réduire leur consommation, mais on va quand même trouver de nouveaux débouchés pour les producteurs parce qu'on est en phase de croissance en termes de parc. Et c'est bien tout notre challenge aujourd'hui d'avoir de plus en plus de clients de manière à trouver des débouchés pour l'énergie renouvelable aujourd'hui disponible sur le marché et les nouveaux projets qui sont disponibles.
C'est génial. Et toi, en tant que... Bah, que consommateur, si je te mets à la place du coup de tes clients, en quoi tu es engagé au quotidien? Quels sont tes engagements, toi, par exemple? Qu'est-ce que tu préfères privilégier au détriment peut-être d'autres choses pour réduire ton empreinte?
Bah, nous, moi personnellement, j'aurais été attaché aux économies d'énergie, même si c'est pas toujours facile et pas toujours naturel, et deux, à l'acheter français. Donc, c'est deux choses qui m'ont toujours. Une certaine manière habitée. Pour être simple, j'ai toujours eu des voitures françaises, par exemple, où j'ai encore ma vieille perceuse Peugeot que j'avais achetée à l'époque, parce qu'à l'époque, on trouvait encore des perceuses françaises. Et j'ai toujours fait très attention à ça, parce que pour moi, la première échelle de solidarité, c'est la solidarité nationale. Parce que c'est eux qui vont payer mes retraites, c'est eux qui ont la solidarité avec moi en cas de maladie, etc., etc. C'est la première solidarité. Et la première solidarité à exprimer, c'est d'acheter effectivement des produits français. Ensuite, c'est effectivement de réduire son empreinte énergétique parce que la question du CO2, je suis né un peu avec. Hein. Moi, j'ai fait mes études, j'étais en 84. Je me souviens encore d'avoir débattu avec des copains à l'époque sur les problèmes de transition de CO2. Donc, c'était des débats qui commençaient à naître, hein, mais on est cette génération.
Oui, parce qu'en 84, ouais, c'est quand même très précurseur. D'habitude, on me dit oui à 10 ans. Et déjà, je dis, ah, bah, déjà, c'est précurseur, vu qu'on a vu une évolution constante de la sensibilisation de la population sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'en 84, là, c'est vraiment précurseur.
Oui, le débat était intéressant d'ailleurs à l'époque. Je savais que la personne avec qui j'avais eu, qui était. En fait, lui disait, il avait fait une étude, il disait, ouais, bon, finalement, CO2, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut faire, le gaz à effet de serre. Et il disait, c'était un haut fonctionnaire. Hein, il disait, bah écoutez, comme on ne sait pas, on ne fait rien. Et moi, j'étais dans la logique inverse. J'étais dire, comme on ne sait pas, il vaut mieux faire quelque chose.
Il y a l'inactivité et la proactivité. Il y a des choses un peu différentes.
Mais c'est évident, non, c'est des choses.
Encore, hein.
Mais moi, ça me paraissait évident que, bah, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein, il n'y a qu'une planète, donc on peut pas se permettre de souper, quoi. Et donc, c'est extrêmement important de faire ça. Oui.
Et comment tu penses pouvoir du coup relocaliser beaucoup de business? Tu penses que c'est faisable à terme ou pas? Que finalement on produise plus en France, tu vois, là on parle d'énergie. Est-ce que toi d'ailleurs tu es consacré 100% aux Français, enfin à la France, ou est-ce que tu comptes partir à l'international?
Bah pour l'instant on est basé en France et on essaie de développer notre activité en France. Peut-être qu'on développera à l'étranger si le modèle fonctionne à l'étranger, mais dans ce cas-là on sera dans une logique de localité étrangère effectivement. Moi, personnellement, je suis attaché à mon pays et mon pays, c'est la France. C'est quand même notre priorité et ça suffit aujourd'hui à animer mes projets. Comment est-ce qu'on fait pour relocaliser en France? Bah, nous, déjà, on localise tous nos emplois en France. C'est assez simple, ça. Nos plateaux clientèles sont en France, on n'externalise rien. Voilà, que ce soit niveau 1, niveau 2, n'importe quel niveau d'appel, on ne tombera que sur des gens qui sont installés, rémunérés, France est basée en France. La production est basée en France aussi. Donc on peut faire ça. Après, on va pouvoir aller plus loin parce qu'il y aura le sujet aussi de qui produit, qui construit, d'où viennent les installations d'énergie renouvelable, d'où viennent les panneaux photovoltaïques, etc., etc., qui entraîne tout le monde vers le mieux produire, le produire localement. Évidemment, on importera, on exportera encore, hein. Il y aura toujours des échanges, mais il faut quelque part, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, pour état de raison, les échanges, à un moment ou à un autre, ça devient délétère. Non seulement il y a la question de dépendance économique, on a bien vu dans le cas de la Chine, enfin, franchement, pour reparler d'un exemple, moi, j'aurais fini à acheter, et j'ai pas acheté, moi, j'ai pas utilisé de masques jetables d'origine chinoise. Franchement, je prends des masques renouvelables d'origine française parce que c'est un peu la même chose. Ouais. Vous voyez, c'est peut-être à vil prix un truc chinois prêt à acheter, ou est-ce qu'on achète un peu plus cher avec un peu d'effort, ce qu'il faut laver, mais finalement c'est français et globalement pour la planète c'est mieux parce que les déchets qu'occasionnent les masques, on n'a pas fini d'en parler. Donc, on voit que c'est tout cela, c'est un tout. Et c'est dans chacun de ces gestes quotidiens qu'il faut penser.
D'ailleurs, ce sujet des masques est assez, m'a beaucoup parlé parce que j'ai l'impression qu'on se crée encore de nouveaux sujets en matière d'écologie. C'est-à-dire qu'on pollue alors le plastique dans l'eau, etc. Et maintenant, c'est les masques par terre. Donc, en fait, quand est-ce que la société va devenir propre? Est-ce que tu as été une piste de réflexion là-dessus ou de solution?
Bah, je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais je pense que c'est vraiment dans la prise de conscience. Je pense que voilà, c'est le bon sens commandait de prendre des masques lavables, quoi. C'est aussi ça. J'ai pas compris pourquoi on avait stocké en son temps des masques jetables. Enfin, c'est un truc aberrant. On avait 1 milliard en France, 1 milliard de masques jetables en France, ou 2 milliards de masques jetables. Quelle aberration. Donc cette question du durable, ben, je prends un autre exemple qui me tient à cœur toujours dans l'acheter français. Je veux dire, moi, le premier micro-ondes que j'ai eu, c'était un Thomson fabriqué en France. Il a vécu 20 ans.
Comme le Nokia, tu te rappelles les bons vieux Nokia, les téléphones?
Bah oui.
Moi, j'étais trop contente parce que j'avais le mien. On aurait dit, j'aurais dû le canoniser, ce Nokia-là. Il a tenu tellement longtemps. Et puis, à un moment, j'étais has-been. J'étais passée dans le clan des has-been. Donc, il fallait que je change de portable. Mais j'adorais mon Nokia. En plus, il y avait toujours le jeu avec le serpent, là. Voilà. Ouais. Non, mais c'est bête, mais oui.
Oui, c'est des gestes comme ça. Moi, j'ai un iPhone. Il doit avoir 5 ans. Il commence à être dépassé. Bah, j'ai pas envie de le changer. Et tant qu'il tiendra, il tiendra.
Parce qu'il y a quand même finalement un encouragement de surconsommation de la société, finalement, quand on regarde bien. Même si tu vas rester, là je ne parlais pas d'une marque française, mais en général, il y a quand même un encouragement à, mis à part l'obsolescence programmée de certains appareils, à surconsommer, à toujours avoir le dernier cri d'un truc, sinon on est jugé comme... Et je pense qu'il va falloir revenir un cran en arrière après ces 30 glorieuses qui nous ont permis de surconsommer et de faire un peu n'importe quoi. Peut-être un peu... freiner tout ça, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il faut freiner. Pour freiner, il faut informer les gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent quand vous achetez un produit électronique, vous ne savez pas combien de temps il va vivre. Vous ne savez pas quelle est l'obsolescence programmée qui va être par derrière. Alors, bien sûr, on peut avoir un peu de bon sens, se dire on achète telle ou telle chose, mais il y a une forme de défaut d'information et peut-être qu'il y aura d'autres modèles qui permettront de valoriser. à ces productions qui sont plus durables.
La seconde vie, la seconde main pour même quand on est sur des plateformes comme Back Market ou autres pour revendre et redonner une seconde vie à des personnes qui se lassent, parce que ça peut arriver la lassitude, et pour pas les jeter justement, puisqu'ils sont tout à fait utilisables, leur donner une seconde vie.
Oui, tout à fait. Et nous on est dans un secteur énergétique où d'une certaine manière c'est un peu ce qu'on fait aussi. Regardez, enfin, c'est marrant de dire qu'il y a une seconde vie à l'énergie, parce que l'énergie ne se réutilise pas, elle se dissipe quand on la consomme. En revanche, on peut ne pas la consommer. Et nous, ce qu'on fait, c'est un peu ça, ne pas consommer, c'est donner une seconde vie à la production qu'on a quelque part, éviter de consommer. Et on peut lui donner une seconde vie. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas si vous l'aviez vu, mais dans la lignée de, on accompagnait les clients au moment de la crise du Covid en réduisant 50% les abonnements. On a choisi de dire aux clients, quand vous réduisez votre consommation, votre bonus est gongosso, donc cet abondement qu'on verse, au lieu de l'utiliser pour payer votre facture, tout simplement, ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser pour donner de l'argent à TD Carbon. Et on voit que d'une certaine manière, c'est un peu cette idée de recyclage, c'est-à-dire l'énergie, au lieu de la consommer, vous ne la consommez pas, et elle est utilisée pour aider d'autres personnes qui vont peut-être pouvoir payer leur facture énergétique, ou avoir un peu plus pour manger le soir, ou quelque part améliorer leur bien-être et leur situation. Et c'est ça qu'il faut, dans chaque secteur, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut pas, faut pas s'arrêter les bras ballants en disant bah non, ouais, ok, on s'est recyclé certains trucs, mais on s'est pas recyclé d'autres. Non, toute chose, on peut quelque part imaginer un modèle différent où on réutilise au bénéfice d'autres l'action que l'on fait en n'utilisant pas ou en évitant de gaspiller quelque chose. Parce que c'est ça recycler, c'est on évite de gaspiller et quelqu'un d'autre en bénéficie. Et nous, ce qu'on fait, c'est la même chose. On évite de gaspiller son énergie et finalement, quelqu'un d'autre va en bénéficier parce que ATD Carbon l'aidera. Donc, sous ces modèles de quelque part de solidarité c'est un peu de solidarité, pas sans peine, mais c'est solidarité sans monétarisation, c'est-à-dire sans qu'on donne de l'argent vraiment, mais on donne un effort. On donne le fait qu'on va redonner quelque chose à une recyclerie ou on donne quelque chose qui consiste à dire j'ai pas consommé et l'énergie que je n'ai pas consommé, quelqu'un d'autre va en bénéficier indirectement. C'est ce geste-là que l'on peut apprendre, qui est un geste simple. Et si on généralisait, je ne sais pas qu'on trouverait la solution au changement climatique, malheureusement, mais on contribuerait à trouver une solution. Je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas une solution unique. Il y aura un effort, il y aura beaucoup de petits efforts, il y a un débat sur ce sujet-là. Il y a énormément de petits efforts à faire, énormément de volonté. Et on, je ne sais pas qu'on résoudra les questions, au moins on peut l'améliorer et se mettre sur le chemin de mieux respecter la planète.
Eh bien, écoute, vraiment, merci Vincent. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose ?
Non, je crois que j'ai...
Non, on a fait le tour.
Un peu épuisé par l'interview.
Ah ouais, non, mais écoute, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Podinstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et même à nous laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment plaisir. Passez tous une bonne journée. Au revoir.
Merci.